La parole du jour avec le Père Willem.
L'amour jusqu'au bout, ou le procès de Jésus. Dans la salle du Sanhédrin, les témoignages ne concordent pas. Les questions du grand prêtre signalent son embarras et son esprit retors. En effet, que répondre à des accusations qui ne concordent pas? Elles conviennent par elles-mêmes qu'elles n'ont aucune valeur. La façon dont le grand prêtre pose sa troisième question souligne d'ailleurs l'ambiguïté. Qu'est-ce qu'il témoigne à charge contre toi? Ce n'a pas l'air si clair, sinon il affirmerait haut et fort, comme si lui-même était embrouillé et qu'il fallait que Jésus parle pour que cela devienne évident, comme si le problème était la façon de parler de l'accusé. En choisissant de se taire, Jésus dit la vérité. Pourquoi? Quand nous sommes agressés, quand quelqu'un nous accuse ou affirme que nous sommes tout rayés, nous utilisons habituellement deux mécanismes de défense. Soit nous contre-attaquons. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui es tout rayé. Soit nous nous justifions. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas tout rayé, je suis transparent. Et ces deux mécanismes nous font invariablement entrer dans du ping-pong qui renforce le mur de la violence entre nous et l'autre. Jésus ne tombe pas dans ces pièges si communs. D'après Pierre, il ne répond pas, restant silencieux durant presque tout l'interrogatoire. Il ne parlera qu'à deux reprises pour confirmer ce que disent les deux autorités suprêmes, le grand prêtre puis Pilate, quand cela touche à l'essentiel de sa mission. Dans les deux cas, il s'agit d'un conflit de pouvoir. Ils craignent pour leur pouvoir. Ils se sentent en compétition avec Jésus et ils veulent gagner. Or, cette mascarade n'a pas prise sur lui. Son silence déstabilise le grand prêtre, lui qui se croit plus fort, le tout transparent. Les silences de Jésus le provoquent dans ses retranchements et l'amènent au cœur de ce qui le préoccupe vraiment. Il pose enfin la question qui le brûle. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait et lui dit: « Toi, tu es le Messie, le Fils du Béni ?» Jésus dit: « Je suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à droite de la puissance venir avec les nuées du ciel. » Dans Marc 14, 61. « Toi, tu es le Messie, le Fils du Béni ?» Nous voilà au cœur du problème. Mais cette question n'est pas une vraie question. Es-tu ? Mais une sorte d'affirmation larvée. Toi, tu es. Défiant Jésus, oseras-tu te prétendre le Messie, le Fils du Béni ? Alors Jésus lui répond, dans la dynamique du récit, il y a là comme une énergie en attente qui piétinait, retenant son souffle, et qui enfin se libère. Jésus dit « Je suis ». Non seulement il reconnaît pour la première fois et devant les plus hautes instances qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, mais il vise plus loin. En disant « Je suis », il reprend à son compte le nom de Dieu révélé à Moïse aux 800 ardents. Le titre de Messie et Fils de Dieu n'a pas pour les Juifs de l'époque la même signification pour nous chrétiens, mais se faire l'égal de Dieu est beaucoup plus grave. En plus, Jésus ne s'arrête pas là, il ajoute « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. » Alors, quelle est cette puissance ? Jésus, qui te permet de rester si présent, si vrai, si digne. Ici, Jésus lui-même se livre, sans se dérober, il leur donne l'argument par lequel ils le condamneront. Il le savait bien, mais c'est cette révélation-là qu'il voulait nous donner. Lui, le fils de Marie et de Joseph de Nazareth, le fils de l'homme, comme il n'arrête pas de se nommer, fils d'homme, comme vous et moi, est aussi le fils de Dieu, le Père. Mais si l'on se met deux secondes à la place des membres du Sanhédrin, eux qui se croyaient les garants de Dieu, unique, qu'on ne peut ni nommer, ni voir, on comprend que ce soit trop pour eux. C'est inacceptable. Se faire l'égal de Dieu, affirmer une relation si proche et intime avec lui, insupportable. Le grand prêtre lacère cet unique et dit « Quel besoin avons-nous encore de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, que vous paraît-il ?» Eux tous le condamnent. Il est passible de mort, de mort. Certains commencent à cracher sur lui. Ils lui voilent la face. Ils le soufflettent et lui disent « Prophétise, prophétise !» Et les gardes, avec des gifles, le reçoivent. Le grand prêtre se déchire ses vêtements. Un geste rituel prescrit par la tradition qui exprime l'horreur devant le blasphème. Enfin, un argument choc pour déchaîner sa haine envers l'accusé. Pourtant, sans s'en rendre compte, c'est lui qui est en train de blasphémer. Jésus a touché quelque chose de sacré pour lui ou pour eux. Cela déchaîne leur violence personnelle et collective. Ils le condamnent à mort, crachent, giflent, provoquent. Ils lui voilent la face. Pourquoi ? Leur était-il insupportable de croiser son regard ? Réflexe courant des bourreaux de tous les temps. C'est beaucoup plus facile de frapper et de torturer un anonyme sans visage, qui n'est pas ou plus quelqu'un. La violence, pour se déployer jusqu'à l'extrême, dépersonnalise celui ou celle sur qui elle va se déchaîner, soit en le diabolisant, le rayant complètement, soit en le faisant disparaître, et souvent en combinant les deux, comme ici. Les attitudes de Jésus sont silence d'abord, puis la vérité de son affirmation met en lumière la violence qui les remplit et leur dicte leur conduite. Dans ce déchaînement, ils perdent toute dignité et toute légitimité. En sont-ils seulement conscients ? La non-violence active, la force de la vérité, comme disait Gandhi, agit comme un révélateur de ce qui habite le cœur de l'homme. Je cite Gandhi. Il faut s'ouvrir à ce qui ne convient pas. Oui, les gardes, avec des gifles, le reçoivent. Même les gardes ont le droit de s'y mettre. Ils sont en position de force. Eux aussi ont envie de gagner. Ils sont du bon côté. Les voilà rassurés. Par le truchement d'une servante du grand prêtre qui, elle aussi, se met à traquer le gibier pour son maître, la violence s'enfle et rejaillit sur Pierre comme un étau qui se ferme. Tant que Pierre était seul dans sa vulnérabilité, en bas, seul près du feu, près de Jésus, son combat intérieur. Oui, tout ce qu'il observait à distance le chamboulait profondément. S'il avait pu, il aurait sûrement réagi autrement. Mais le rapport de force lui était tellement défavorable. De plus, il était comme pétrifié par Jésus et son attitude. Il ne comprenait pas. Mais une servante le reconnaît. Elle le fixe. Expression terrible qui dit la violence de ce regard qui rejette Pierre dans le camp des mauvais. Comme nous savons si bien le faire quand nous enfermons quelqu'un en lui collant une étiquette. Lui, c'est un brigand. Elle, c'est une voleuse. Lui, un délinquant. Elle, une incapable. Et voilà Jésus qui porte toutes ses blessures, seul, seul.